C'était en 1997. J'étais en voiture et je me rendais à Brétigny-sur-Orge, au centre d'art de Brétigny que je dirigeais alors. J'étais au volant donc et à côté de moi, il y avait Maurizio Cattelan. En fait, j'avais invité Maurizio à faire une exposition au centre d'art. Et nous nous y rendions, et pour lui, c'était la première fois. Et je l'accompagnais donc pour qu'il puisse découvrir le lieu. Et c'est vrai que j'étais allé le chercher à Paris parce que je voulais évidemment pas le laisser se perdre dans les méandres du RER. Donc nous faisions ce trajet ensemble. Alors Maurizio n'était pas. Peut-être pas encore la star qu'il allait devenir peu de temps après d'ailleurs, mais voilà, il s'était fait connaître par quelques pièces déjà assez notoires, comme par exemple ce grand baby-foot géant fait pour faire jouer 22 joueurs, deux équipes de 11, notamment avec des personnes issues de l'immigration en Italie, qui étaient dans des conditions difficiles et qui d'ailleurs arboraient un t-shirt où était marqué comme un logo d'entreprise, Raus. Et puis il avait fait aussi cette exposition dont on avait beaucoup parlé à Paris, qui était chez Manuel Perrotin, où il avait affublé son galeriste d'un ridicule costume de lapin, la pièce s'appelait Hérotin le lapin. Voilà, et il y a eu voilà, quelques interventions dont on avait assez parlé. Et puis c'était juste avant une pièce qui allait vraiment, là pour le coup, et je pense qu'elle a été un moment important de bascule, comme ça, dans sa notoriété en tout cas, c'est cette pièce qui s'appelle La Nona Ora, qui est une sculpture du pape Jean-Paul II qui est terrassée par une météorite. Voilà. En tout cas, voilà, on était à bord de cette voiture et on parlait évidemment du projet qu'on allait pouvoir faire ensemble. Et je me rappelle juste une chose qui m'avait frappé, c'est il avait un appareil photo et il regardait sans cesse à l'extérieur, à l'affût comme ça, d'images qu'il pourrait capter. Je me rappelle notamment d'une où c'est assez étonnant, il y avait une série de grands pylônes, immenses pylônes électriques qui traversaient comme ça, enfin qui étaient à côté de l'autoroute et qui et au sommet duquel l'un entre ces pylônes, il y avait une personne qui s'activait tout en haut comme ça, mais c'était vertigineux et sûrement enfin, pour réparer une avarie. Et voilà, Maurizio l'avait capté, il l'avait photographié tout de suite. Alors moi, je me concentrais évidemment plutôt sur la route, mais j'avais vu ça, c'était comme une sorte de flash, comme ça, c'est étonnant. Enfin voilà, et donc chemin faisant, on parlait donc de ce que pourrait être le projet, et il me demandait ce qu'il y avait eu comme exposition avant, donc je lui disais, bon voilà, j'ai fait telle exposition, il y a eu Carsten Holler, il y a eu Michel Blasi. Il y a eu l'atelier Van Nessaout, il y a eu Richard Foguet, voilà. Je décrivais un petit peu, et puis à un moment donné, il me dit, mais Xavier, quelle est l'exposition que tu as préférée? Alors, c'est toujours embarrassant quand on pose cette question, parce que c'est pas qu'on les aime toutes, mais quand même, quasiment. Parce qu'on n'aime jamais privilégier une expo plutôt qu'une autre. Et puis sérieusement, j'étais assez heureux de tout ce que ça avait pu produire à l'époque. Au bout de ouais, 5-6 ans de programmation, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, je lui ai quand même parlé justement de celle de Richard Foguet, qui était effectivement, je pense, un grand moment, enfin, une très très belle exposition avec la production d'une pièce. Très belle, je crois, qui est cette immense table en verre qui supportait des éléments, eux aussi en verre, qui étaient en fait des collages d'éléments existants, des carafes, des verres de cantine, des plats, tous du même verre blanc. pauvre, comme on dit, et avec ce talent qu'Arisha pour faire figurer des personnages qu'on peut tout à fait reconnaître, notamment il y avait toute une série de personnages issus de Star Wars, etc. Bon voilà, donc je lui décrivais ça, et avec enthousiasme, certainement. Et puis, et Mauricio me dit, mais alors, Xavier, si tu veux, si tu as aimé, eh bien, on refait la même exposition. On fait l'exposition de Richard Froguet. Alors, c'était assez amusant, mais en même temps, c'était très sérieux. D'autant plus qu'il avait fait un projet un peu similaire peu de temps auparavant, en fait, où il avait exposé chez Emmanuel Perrotin, justement, au moment où Perrotin faisait partie de cette galerie de la rue Louise Weiss, qui s'établissait toutes les unes à côté des autres, comme une sorte d'enfilade, comme ça. Et donc, il avait fait cette exposition, alors que, juste à côté, à la galerie Air de Paris, était exposé Carsten Holler. Et une très belle exposition de Carsten, avec, je me rappelle, cette magnifique sculpture de crocodile orange en résine au sol et d'autres éléments. Et donc, Maurizio avait refait exactement la même exposition, avec l'accord certainement de Carsten, évidemment, qui avait joué le jeu. Et donc, l'expérience était assez étonnante parce qu'on passait donc de la galerie Air de Paris, on découvrait l'exposition de Carsten Holler, on en ressortait, on rentrait dans la galerie suivante, qui est celle de Perrotin, et on voyait exactement la même exposition. Donc il y avait une sorte de trouble comme ça, côté un peu hallucinatoire, qui était joué par Maurizio, ce côté toujours qui perturbe en fait. Bref, donc quand il me parlait de reproduire l'exposition de Richard Foguet, oui, il était sérieux. Enfin voilà, donc on était en train d'évoquer ces pistes, et nous arrivâmes à Brétigny, devant le centre d'art. Et en fait, le centre d'art est au fond d'un immense parking. Et donc, je passais l'arceau de sécurité pour pénétrer sur le parking. Et là, Maurizio me dit « Stop !» Waouh ! Donc, j'ai effectivement arrêté tout de suite le véhicule. Maurizio est sorti de la voiture. Je suis sorti également et puis je regardais un petit peu. Et il regardait le paysage, donc le centre d'art, qui est en fait un centre d'art, mais aussi une bibliothèque, une médiathèque, un théâtre. Donc c'est un grand bâtiment comme ça, au fond de ce parking. Et Maurizio se tourne vers moi et me dit « Ça y est, je sais ce qu'on va faire. » Ah, bon. Il me dit « Xavier, tu vois là-haut, sur la colline, l'église ?» Alors effectivement, je la voyais, je la connaissais d'ailleurs très bien. Donc il se trouve que effectivement, derrière le centre d'art, il y a une colline et au sommet de laquelle il y a une église romane, d'ailleurs très très belle, du XIIIe siècle, qui domine donc ce paysage. Il me dit, tu vois, donc le clocher, et regarde, sur le toit du lieu du centre d'art, cet élément étrange qui sort sur le toit. En fait, il décrivait un parallépipède qui en fait est le conduit extérieur de l'ascenseur du lieu. Et il me dit il me montre, et à juste titre, que ce parallépipède correspondait absolument au parallépipède du clocher de l'église. Vraiment, même orientation. Et alors, cerise sur le gâteau, une pendule dans chacun des cas, alors différente, mais sur la même face, si j'ose dire. Donc une pendule, la pendule de l'église, et une pendule qui avait été placée effectivement sur ce conduit, sur le centre d'art. Il me dit, ben alors, ce qu'on va faire, on va faire le clocher, on va faire une reproduction du clocher sur cet élément-là, sur le centre d'art. C'était assez étonnant parce que vraiment, en quelques secondes, il avait perçu ça et effectivement, c'était une sorte d'évidence, quoi, qu'il y avait quelque chose à faire de cet ordre et de faire reproduire le clocher. Il y a une similitude assez étonnante entre ces deux éléments. Et effectivement, il y avait un manque. C'est comme si, effectivement, il fallait réparer quelque chose. Comme mettre quelque chose qui aurait dû y être, à savoir le clocher de l'église. Bon, donc ensuite on est rentré évidemment dans le lieu, il a regardé ce qu'à l'époque était juste une galerie en fait, c'était avant l'extension qu'on a faite quelques années plus tard. Donc à l'époque c'était une galerie qui en fait a été formée sur enfin ce qui était le hall d'accueil de ce grand centre culturel. Bref, donc, en tout cas, voilà, ça semblait évident que c'était cette idée qui était la bonne. Et donc, on allait. Enfin, voilà, assez intéressant de faire ce clocher. Et il me dit en même temps ah, normalement, dans un clocher, il y a une cloche. Donc, oui, effectivement, alors il me dit il y a bien une cloche. Dans le clocher de l'église, oui, bien sûr, elle fonctionne, elle sonne aux heures de la journée. Me dit, ce qui serait formidable, ce serait d'avoir une cloche, comme ça on l'installe et voilà, et les gens pourront sonner la cloche. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, en regardant par la suite, évidemment, qu'on s'est mis à travailler sur le projet, en regardant précisément ce qu'on pouvait faire, il se trouve que, hasard incroyable, il y avait une ouverture dans le toit, vraiment au fond de la galerie, qui correspondait juste à proximité donc, de ce fameux conduit extérieur de l'ascenseur, et qui, une sorte de trappe comme ça de sécurité, voilà. Et qui donnait la possibilité d'installer quelque chose sur le toit et de relier, en l'occurrence, faire tomber une corde. Vraiment pile au fond dans la galerie, au fond de la galerie. Voilà, donc d'une part, on s'est entendu là-dessus avec Maurizio, et puis très vite, je me suis retourné vers les ateliers de la ville. Alors, il se trouve qu'à l'époque, la ville avait ses ateliers municipaux qui donnaient la possibilité de produire beaucoup de choses. Donc il y avait un atelier bois, il y avait un atelier serrurerie, etc. Et c'est vrai que j'avais fait pas mal de pièces avec des artistes invités grâce à ces ateliers, sachant que la programmation que je faisais à l'époque était vraiment tournée essentiellement sur de la production d'œuvres par rapport à ce lieu qui était quand même très difficile, donc c'était intéressant de créer des œuvres spécifiques et c'est ce qui s'est fait. Et dans les ateliers municipaux, il y avait des gens de qualité, notamment la personne qui s'occupait de l'atelier bois, qui s'appelait Daniel Cartier, je me souviens, qui était un homme formidable, enfin, qui savait tout faire. Et donc, grâce à lui, on a fait un vrai clocher, une vraie charpente en bois, etc. À côté de ça, j'avais trouvé un décorateur de théâtre qui a fait vraiment à l'identique, exactement à l'identique, tout ce qui était de l'ordre des tuiles, voilà, qui étaient posées sur la charpente, etc. Donc on a installé un vrai clocher sur cet élément, sur le toit du centre d'art. Je me rappelle d'ailleurs, évidemment, quand on a installé le clocher avec une grue, ça, c'était un grand moment, c'est sûr. Et puis, à côté de ça, j'avais recherché une cloche, mais une vraie cloche d'église. Et il se trouve que là, miracle, j'avais trouvé une entreprise qui était. On entend des cloches, c'est pas celle-là. Qui était la seule à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore, qui louait des vraies cloches d'église. Donc j'avais loué une cloche d'église qu'on avait installée sur le toit. Et à partir de laquelle on avait fait tomber une corde. Qui effectivement tombait dans l'espace d'exposition et qu'on pouvait activer. Donc voilà, la pièce a pu être mise en place comme ça. Et c'était effectivement un projet assez fort, très étonnant parce que voilà, ça donnait la possibilité au public de sonner la cloche, qui était là aussi une sorte d'élément perturbateur alentour, puisque les gens étaient évidemment habitués à la sonnerie régulière de l'église juste au-dessus. Et puis voilà, et puis c'était devenu tout à fait intempestif et au bon vouloir des visiteurs. Et puis voilà, sonner une cloche, toute cette question de l'annonce, etc. Je fais pas exprès, hein. Là, il est midi, on entend une cloche. Il y a eu aussi un moment assez amusant. C'est le moment du vernissage, parce que a priori le maire de la ville, Jean de Boishue, j'aime citer les noms quand même, venait rarement au vernissage. Il voyait des expositions, bien sûr, mais il venait rarement au vernissage. Et là, il est venu. Et il est venu, et comme souvent les élus le font, voilà, il arrive comme ça, il rentre directement, il est chez lui après tout, il rentre directement dans la galerie, dans l'espace d'exposition. Et je le suis évidemment, et puis je n'avais pas eu encore le temps de lui expliquer le projet. Et il se retourne vers moi et il me dit, mais Xavier, enfin, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'exposition. Alors, je lui dis, Monsieur le maire, regardez bien, vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Alors il regarde, il me dit, ah oui, il y a une corde. Et là, je commence à lui expliquer le projet, etc. Donc il s'avance, il va au fond de la galerie, il écoute, et puis il se saisit évidemment de la corde, il se met à la faire sonner. Mais alors, c'était vraiment drôle parce que, je sais pas, il a dû sonner pendant 10 minutes. Et c'était comme un enfant qui jouait, quoi. C'était assez drôle. Et puis, autre souvenir, enfin, autre élément assez intéressant, c'est par la suite, il se trouve qu'un journaliste des Inrocks est passé. Il est passé sans me le dire, donc, ce qui est très bien, pour découvrir le projet. Et c'était Sébastien Pluot, que j'ai rencontré par la suite, qui a fait un papier dans les Inrocks, et qui m'expliquait que, bah voilà, lui, très bon journaliste qu'il est, très consciencieux, il était monté à l'église du village, donc dans cette église qui domine le paysage. Et là, il avait rencontré une religieuse. Voilà, et Sébastien lui a expliqué le projet, tout ça. Et la religieuse, évidemment, était très, très intéressée. D'abord, elle lui expliquait que bah, c'était super parce que elle avait connu ce temps où, dans cette église, justement, elle actionnait la cloche chaque heure. Et évidemment, depuis longtemps, d'ailleurs, ça avait été électrifié. Donc voilà. Plus à faire, donc elle était très intéressée. Donc elle est redescendue avec Sébastien Pluot pour voir l'exposition. Elle est rentrée dans l'espace et elle aussi, évidemment, s'est mise à activer la cloche, à sonner la cloche avec beaucoup d'émotion. Elle était quasiment en pleurs, comme on l'a raconté Sébastien. Enfin voilà, donc pour ce projet réalisé avec Maurizio Cattelan, qui, je dois dire, avait été un moment très très fort de cette programmation à Brétigny. Alors, donc, comme on est sur cette problématique du son, de la transmission, donc d'espace sonore, et bien évidemment, on a entendu un petit peu une cloche, mais je vais vous faire écouter parce qu'à l'époque, j'avais enregistré justement quelques moments de sonnerie comme ça de la cloche de Catalane. Donc ce que je vous propose, c'est d'en écouter quelques instants.